Je crois que Bourg-en-Bresse, depuis maintenant quelques années, est en mouvement.
Des personnes qui arrivent d'Afrique, des personnes qui arrivent des Balkans. Et ce qu'on cherche, c'est l'universalité des droits.
J'ai toujours baigné dans un milieu plutôt manuel. J'aime bien le travail de la matière, ça c'est sûr.
Des hommes, des femmes d'horizons divers.
On voit autre chose, les jeunes, on les découvre autrement.
C'est marqué.
Un peu ras-le-bol de ce système qui nous oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est également demander moins d'élèves par classe.
Mais c'est en côtoyant justement différents maires qu'on apprend ça.
Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'À vous les Burgiens. Cette semaine, c'est le printemps des poètes et si tous les événements sont annulés sur Radio B, on peut toujours écouter de la poésie au chaud chez soi. En deuxième partie, les élèves de primaire sont sensibilisés au tri des déchets avec Organum, un reportage de Camille Grangeard. Et en fin d'émission, l'interview du docteur Meyer pour avoir les bons gestes face au coronavirus.
Radio B.
Le printemps des poètes, c'est un événement qui a un objectif bien précis, démocratiser la poésie. Pour cela, des lectures, des spectacles sont organisés pour les petits et les grands. Cette année, malheureusement, pas d'événement, mais sur Radio B, on vous fait écouter des poèmes malgré tout. Le thème de l'édition 2020, c'est le courage. L'événement est national et à Bourg-en-Bresse, c'est Katia Bouchoueva qui était l'invitée d'honneur. Katia Bouchoueva, c'est une poétesse originaire de Russie qui écrit en français. Elle est installée depuis 2002 à Grenoble et son dernier recueil, Alger Céleste, est sorti en 2019. Sur Internet, la jeune femme aux cheveux courts déclame ses textes en slamant, un style particulier qui fait son identité. On écoute son poème « Retour ».
On la retrouve 30 ans plus tard sur un bateau. On ouvre l'estomac des soutes, la sort et recouvre. Dans le halo du mazout, en mots tremblants, finit par dire son nom. Écoute ses jambes. Musique, ni russe, ni parisienne, ni soviétique, une seule, une la, une si, la bella, saisie par la taille. Mais c'est une onde, si longues années après, si lourdes secondes, avant la danse, haute comme la marée.
C'était le poème « Retour » de Katia Bouchoueva. En 2016, l'invitée du Printemps des Poètes était Maram Almasri. Elle devait se produire cette semaine dans l'Ain à Oyonnax. Nous l'avons interviewée par téléphone pour savoir ce qu'elle pense du thème du courage. Bonjour Maram Almasri.
Bonjour.
Vous êtes poétesse originaire de Syrie. En 2016, vous êtes venue à Bourg-en-Bresse pour le Printemps des Poètes. Cette année, le thème, c'est le courage. Maram Almasri, pour vous, c'est quoi le courage ?
Le courage, c'est... De savoir vivre, de vivre déjà, de survivre, c'est un courage. Surtout dans un monde maintenant qui est rempli de dangers partout, de dangers de maladies, dangers de la guerre, dangers de la haine. C'est vraiment courageux de vivre quotidiennement. Et écrire, c'est un courage aussi.
Vous avez quitté votre pays natal, la Syrie. Dans quel contexte vous êtes parti et pour quelles raisons ?
Vous savez, on dit toujours qu'il y a deux raisons. Hein. Les raisons directes et il y a des raisons indirectes. Les raisons indirectes, c'est les situations politiques et les situations politiques qui affectent beaucoup aussi les situations de société, les gens comment ils se traitent ensemble. Et puis deuxièmement, l'affaire indirecte, c'est l'histoire d'amour qui était un peu difficile et qui était un peu aussi courageuse, je pense, parce que ceci est un amour qui est atypique avec un chrétien qui a semé des bagailles dans ma vie, dans la vie de ma famille. Et puis voilà, j'ai pensé qu'en partant, je peux faire un autre nom, un autre visage, une autre vie. Et alors j'ai quitté le pays en espérant de vivre ailleurs mieux.
Et est-ce qu'il y a un moment en particulier dans votre vie où vous vous êtes dit, là, je fais acte de courage ?
Oui, plusieurs fois. Je pense que l'acte d'amour, c'est un acte de courage. Aussi, j'ai divorcé, c'est un acte de courage. J'ai écrit de la poésie, c'est un acte de courage. Je me suis exposée aussi, c'est un acte de courage. Parce que l'acte de liberté, de se libérer, c'est un acte de courage. Il y a besoin de beaucoup de force, beaucoup de volonté. Et à ne pas avoir peur, parce que aussi il y a la peur qui nous hante malgré tout. Et détacher de sa peur et puis pour aller ailleurs, dans un inconnu, c'est un acte courageux. Tous ces immigrants qui quittent leur pays, les gens peuvent dire, ils sont partis parce qu'ils ne sont pas courageux d'affronter la guerre, de faire la guerre, mais moi je pense qu'ils sont courageux d'espérer une vie meilleure, quelque part ailleurs.
Dans votre écriture, c'est des moments aussi personnels de courage qui vous ont inspiré à écrire, qui vous ont donné l'envie d'écrire ?
Oh, bien sûr, bien sûr. En tout cas, tous mes poèmes. Maintenant, tous mes recueils, j'ai maintenant peut-être 12 recueils. Tous mes recueils, ils sont des thèmes de ma vie, des thèmes qui... que mon âme a grandi, mais ma compréhension du monde aussi a grandi avec. Je pense que c'est ça aussi, c'est-à-dire c'est la liberté qui m'a amené d'un lieu à l'autre, d'un recueil à l'autre. C'est le carrefour de ma vie qui aussi a dicté aussi le parcours que je fais dans mon œuvre.
Donc vous parlez beaucoup de liberté. En quoi la liberté et le courage, c'est lié selon vous ?
Parce que de vivre librement, ça me demande beaucoup de courage. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident à casser tout, à casser les chaînes, à casser les préjugés, à sacrifier. Sacrifier des fois ta sécurité, à sacrifier... la tranquillité, sacrifier aussi l'aisance financière. Il y a beaucoup de choses dans la liberté qui signifie le courage.
La poétesse Maram Al-Masri nous a aussi lu un de ses poèmes écrit en arabe. On l'écoute en arabe dans un premier temps, puis en français juste après.
الكتابة أليست الكتابة بحد ذاتها فعلا فاضحا؟ الكتابة هي محاولة لمعرفة النفس في أفكارها الأكثر ذاتية. نعم أنا فاضحة لأنني أظهر حقيقتي وعري كامرأة. نعم أنا فاضحة لأنني أكتب ألمي وأملي، رغبتي، جوعي وعطشي. الكتابة هي كشف الوجوه المتعددة للإنسان، الجميل والقبيح، الرؤوم والقاسي. الكتابة هي الموت أمام من ينظر إليك بدون أن يتحرك، هي الغرق أمام مركب يعبر بالقرب دون أن يراك. الكتابة هي أن تكون المركب الذي ينقذ الغرق. الكتابة هي العيش على حافة هاوية متمسكا بعشبة. L'acte d'écrire n'est-il pas un acte scandaleux en soi? Écrire, c'est apprendre de se connaître dans ses pensées les plus intimes. Oui, je suis scandaleuse, car je montre ma vérité et ma nudité de femme. Oui, je suis scandaleuse, car j'écris ma douleur et mon espoir, mon désir, ma faim et ma soif. Écrire, c'est décrire le multiple visage de l'homme, le beau et le laid, le tendre et le cruel. Écrire, c'est mourir devant une personne. qui te regarde sans bouger. C'est se noyer devant un bateau qui passe tout près, sans te voir. Écrire, c'est être le bateau qui sauvera les noyés. Écrire, c'est vivre sur le bord d'une falaise et s'accrocher à un brin d'herbe.
C'était la poétesse Maram Al-Masri. Et jeudi à 14h sur Radio B, vous entendrez d'autres poèmes dans l'émission de Christine Fusarelli, Ça ne manque pas de poésie. Et après Blowing in the Wind de Bob Dylan, reportage avec des enfants qui trient les déchets. Et le docteur Meyer vous donnera aussi ses conseils face au Covid-19.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
C'était Blowing in the Wind de Bob Dylan. Et pour la deuxième fois, Organum, un syndicat intercommunal de traitement des déchets, a lancé un challenge inter-établissement destiné aux classes de CM1 et CM2. Les 14 écoles qui ont répondu à l'appel à candidature ont produit une affiche sur la réduction des déchets. Camille Grangeard les a interviewées.
Cette année, c'est l'école Saint-Pierre-Chanel d'Attignat qui a remporté le concours. Elle veut obtenir un renouvellement du label Éco-école décerné par un programme international d'éducation au développement durable. Après la biodiversité et l'alimentation, cette année, les élèves s'interrogent sur les déchets. Ils nous expliquent le travail qu'ils ont fait pour élaborer le visuel.
On a travaillé sur les affiches pour voir les renseignements qu'il y avait sur une affiche. Après, on a fait des équipes pour trouver les différents éléments ou les placer. Et avant, on avait trouvé un slogan, c'est « Les déchets nous encombrent, réduisons-les ou ils nous mangeront ». Ensuite, à la maison, on a trouvé des idées pour réduire les déchets. Et ensuite, il y a des enfants qui ont été tirés au sort pour être sur une photo. Et... On a mis un slogan et on a mis des idées pour réduire les déchets, pour essayer d'en faire moins. Et on a mis une photo pour inciter à arrêter de faire 500 kilos de déchets par an et par habitant.
Bah après, quand on avait terminé les affiches par groupe, il y a des maîtresses qui ont voté pour choisir celle qui sera présente au concours. Et du coup, bah, après, il y en a une qui a été choisie. Et on a attendu, et puis on a su qu'on avait gagné. Et du coup, bah, on va la proposer au maire de notre village pour qu'il l'affiche dans le village.
Derrière ce travail, c'est Monsieur Benoît, leur professeur, qui a encadré leur réflexion. Il a misé sur le travail d'équipe, mais aussi sur la réflexion personnelle à la maison. En classe, ils ont allié plusieurs champs disciplinaires pour sensibiliser les enfants à la réduction des déchets.
On travaille plutôt les différents axes. Alors ça peut être très varié, puisqu'on a travaillé aussi beaucoup en champ pluridisciplinaire. Par exemple, on a fait venir un archéologue dans la classe qui nous parlait de son métier, qui consiste justement à retrouver des déchets du passé et puis essayer de les faire parler. Donc ça peut être aussi bien en histoire avec ce travail-là. On le travaille aussi en sciences. On a eu une intervention d'une personne qui travaille, lui, au sein d'une ferme et donc il nous a appris comment se former un sol. Donc là, on a plus un aspect scientifique avec qui allie la géologie, la biologie, un peu de physique, avec des moyens un peu plus simplifiés pour les enfants. Et puis on travaille aussi tout ce qui est valorisation des déchets. Donc c'est aussi la raison de notre venue sur le site de la Tienne. Et puis on voit aussi toute la partie sensibilisation, prévention et puis réduction des déchets à la source.
Cette sensibilisation était aussi souhaitée par Organum qui a lancé le challenge. C'est eux qui gèrent le site de la Tienne, là où sont traités et enfouis les déchets. Une façon de communiquer sur l'entreprise selon le chargé de communication Sébastien Marquès.
Alors depuis 2009, en fait, Organum a une compétence en matière de prévention, c'est-à-dire d'améliorer le tri et surtout de réduire les déchets ménagers du territoire. Donc c'est avec des plans locaux de prévention des déchets. Et finalement, on a pas mal de sensibilisation du grand public avec l'organisation des visites. Et ce challenge permet d'aller un peu plus loin, permet vraiment aux élèves sur un semestre d'approfondir ces questions en classe et de confronter un peu les propositions qu'ils ont faites durant le challenge à la réalité du traitement des déchets.
Les élèves ont pu aller visiter le site de la Tienne, là où sont traités, valorisés et enfouis les déchets. Les enfants, je les ai rencontrés. Après la visite, une jeune fille m'a expliqué ce qu'elle a appris.
Il faut trier les déchets parce que sinon, après ils sont jetés et ça risque de polluer la planète. On mettait une bâche en dessous des déchets parce que sinon, plein de gaz, elle allait aller dans les nappes phréatiques et du coup, ça allait polluer les nappes phréatiques.
Une visite bénéfique selon M. Benoît.
Dans l'ensemble, ils savent trier. Maintenant, par exemple, ils connaissent bien le principe de trier les déchets. Mais ce qui est intéressant, par exemple, avec la venue d'aujourd'hui sur le site, c'est qu'on ne sait pas forcément où vont ces déchets et ce que l'on en fait. Même si on peut en parler en classe, c'est vrai qu'en se rendant sur le site, on se rend vraiment compte de ce qu'on fait de tous ces déchets. Et puis du devenir de certains déchets qui sont enfouis. Ça, je pense qu'ils ne le savaient pas forcément.
Mais les efforts pour limiter les déchets, c'est aussi toute l'année, comme l'explique le professeur. Les écoles engagées pour l'obtention de l'écolabel mettent en place des moyens pour réduire les déchets.
Dans le cadre de l'écolabel éco-école, on a un cahier des charges assez précis. Donc on fait un constat en début d'année scolaire, donc de tout ce que l'on a déjà fait sur l'école. Donc des actions avaient déjà été menées puisqu'on récupérait les stylos, les crayons, le papier réutilisé en brouillon. Et puis donc en plus de ce constat-là, on a mis en place, on essaie d'impliquer aussi les parents de l'établissement. Donc on a des éco-délégués par an qui viennent à des réunions. On cherche des solutions ensemble pour comment travailler soit en classe ou soit en dehors de la classe sur cette problématique des déchets. On a également mis en place ce qu'on appelle les éco-délégués juniors, donc qui sont sur l'établissement et qui, eux, à leur niveau, cherchent aussi des solutions. Donc, tout à l'heure, un enfant avait parlé d'un pique-nique zéro déchet. C'est des choses que l'on a mis en place, que l'on met en place, à savoir, on essaie d'apporter un pique-nique lors de journées, lors de sorties scolaires, qui produit le moins de déchets possible.
Et les écoles qui ont participé au challenge ont été invitées à visiter le site de la Tienne.
Un reportage de Camille Grangeard.
Radio B. Radio B.
Et dimanche dernier, malgré le contexte des élections, les élections municipales ont eu lieu. À Bourg-en-Bresse, c'est Jean-François Debat qui sort vainqueur dès le premier tour. Il entame donc son troisième mandat. Le pays est passé en stade 3 de l'épidémie du Covid-19. Des annonces sont attendues dans la semaine pour faire respecter le confinement qui n'est pas toujours suivi par les habitants. Et nous avons eu le docteur Meilleur pour répondre au téléphone à nos questions sur la situation dans l'Ain et il nous donne ses conseils à suivre. Bonjour docteur Meilleur.
Bonjour.
La situation, comment elle est aujourd'hui dans l'Ain au niveau des hôpitaux?
Alors dans l'Ain, au niveau des hôpitaux comme en ville d'ailleurs, pour l'instant c'est plutôt apaisé, même si tout le monde est en train de se préparer à la suite qui pourrait arriver.
La suite ce serait quoi?
La suite ce serait quelque chose qui au pire ressemblerait à ce qui peut se passer dans l'Est de la France actuellement, c'est-à-dire que malgré les mesures prises, un peu trop de gens soient malades en même temps, parce que pour rappel, on sait gérer la maladie en elle-même, c'est simplement le fait qu'il y a un afflux trop important d'un coup qui pourrait être ennuyeux pour les personnes les plus graves, qui seront probablement assez rares, mais il y en aura. Et si elles sont trop nombreuses en même temps, est-ce qu'on aura assez d'appareils pour les accueillir ou pas? Donc c'est en ça que tout le monde se prépare, c'est-à-dire d'une part avec toutes les mesures de précaution, on limite le nombre de gens qui seront malades en même temps, ce qui ne veut pas dire que tout le monde ne sera pas en contact avec le virus. Pour que le virus se calme, il faut que tout le monde soit en contact avec le virus et que petit à petit, 80% de la population ait été en contact, fabriqué les défenses et que, comme dans toute grippe, on passe à autre chose. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que ça arrive trop d'un coup, parce que sinon, ça viendrait se rajouter à la grippe saisonnière habituelle et donc ça prendrait trop de lits.
Pour éviter que tout vienne d'un coup, tous les cas viennent d'un coup, quelles sont les recommandations?
Les recommandations, c'est celles dont on entend parler un peu partout depuis quelques jours. Et en même temps, c'est les mêmes recommandations qu'on donne depuis toujours et qui étaient moins entendues que dans cette crise-là. C'est-à-dire des mesures de bon sens. On évite d'aller voir les gens fragiles pendant cette période. On évite les contacts directs. On ne se serre pas la main, etc. Ça, je ne vais pas répéter. On se lave les mains. Le savon, se laver les mains pendant 20 secondes, c'est très efficace. Les solutions hydroalcooliques ne sont utiles que si il n'y a pas d'eau pour se laver les mains et s'il n'y a vraiment pas d'autre solution, parce qu'on n'est pas absolument certain de leur efficacité. Donc, en tout cas, là, dans les bactéries, c'est plus efficace, mais se laver les mains régulièrement, faire attention aux autres. Et puis, ben, là, il y a toutes les mesures carrément de confinement ou en tout cas de limitation d'aller au travail, etc. Mais ça, vous les connaissez. Et elles sont peut-être excessives, mais on ne le saura qu'après. Donc pour l'instant, les conseils, c'est de les suivre.
Et au niveau des masques, on voit qu'il y a pas mal de ruptures de stock. À quoi ça sert le masque, en fait? En quoi c'est essentiel? À quel moment on en a besoin?
Le masque, il n'est utile que pour la personne malade, pour qu'elle évite de donner son virus trop rapidement. Les gens autour n'ont aucune raison de porter un masque pour le moment. Les soignants les utilisent uniquement quand il y a un cas avéré. Le problème du masque, c'est que si vous mettez un masque, vous approchez vos mains de votre bouche et que le portage contact est peut-être encore pire. Donc le masque est pour l'instant vraiment secondaire, il faut rester assez cool avec ça et il faudrait le garder pour les gens qui en ont vraiment besoin. Si on arrivait, grâce à cette crise, à ce que non seulement les gens perçoivent l'utilité de faire attention, à certaines mesures d'hygiène de base et de contact humain, et que en plus on pensait à envoyer des petits mots gentils et peut-être utiliser les techniques vidéo, phone, les Skype et autres IMO pour éviter que les gens isolés soient encore plus isolés par cette crise, et peut-être même qu'on va finir par être encore plus proche de nos proches isolés, parce qu'on va penser à eux dans ces moments où tout le monde va avoir tendance à se confiner. Ce serait une des choses positives de cette histoire, en tout cas de ne pas oublier au moins le contact avec les gens seuls.
C'était le docteur Meilleur. C'est la fin de notre émission. À vous les Burgiens, revient dans l'idéal dès lundi prochain. La programmation de Radio B est un peu plus légère que d'habitude vu les circonstances. Les émissions de nos bénévoles sont souvent annulées. Mais la musique reste à l'antenne, alors n'hésitez pas à écouter et aussi à aller voir nos podcasts sur radio-b.fr. En attendant le retour à la normale, restez confinés et écoutez Radio B. À bientôt sur le 90 FM. Je crois que Bourg-en-Bresse, depuis maintenant quelques années, est en mouvement.
Des personnes qui arrivent d'Afrique, des personnes qui arrivent des Balkans, et ce qu'on cherche, c'est l'universalité des droits.
J'ai toujours baigné dans un milieu plutôt manuel. J'aime bien le travail de la matière, ça c'est sûr.
Des hommes, des femmes d'horizons divers.
On voit autre chose, les jeunes on les découvre autrement.
J'ai marqué.
Un peu ras-le-bol de ce système qui nous oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est également demander moins d'élèves par classe.
Mais c'est en côtoyant justement différents maires qu'on apprend ça.